Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonjour à tous. Aujourd'hui, les cours du Collège de France. Titulaire de la chaire épigraphie et histoire des cités grecques au Collège de France, Denis Knöpfler s'est penché pour son 11e et dernier cours annuel sur la figure de l'empereur Hadrien, en mettant l'accent sur ses liens avec les cités grecques de Grèce et d'Asie mineure. Sans exclusive d'ailleurs, car si Hadrien est le plus philénène des empereurs romains, il est aussi curieux de voir tous les confins de l'Empire. Sans exclusive surtout, parce que Denis Knöpfler a choisi comme fil conducteur de ses leçons les fameuses « Mémoires d'Hadrien » de Marguerite Yourcenar. Depuis leur publication en 1958, un demi-siècle d'érudition épigraphique permet de corriger ou compléter le subtil récit de la romancière. C'est ce à quoi s'emploient ses leçons. Hier, Denis Knöpfler évoquait la présence discrète des femmes dans ce récit, s'arrêtant longuement sur le beau visage de Plotine, femme puis veuve de Trajan, le prédécesseur d'Hadrien. Plotine aima et protégea Hadrien. Aujourd'hui, Denis Knöpfler reprend un fil chronologique. Hadrien passe à Rome les années 126-127, avant un nouveau voyage en Orient, en 128-129. Ces années romaines semblent des années vides, sans éclat à côté des spectaculaires voyages de l'empereur à travers son empire, et Marguerite Yourcenar, comme l'observe Denis Knöpfler, a dû renoncer à donner un récit suivi à ce qu'elle appelle « les années perdues », selon son expression peut-être un peu exagérée. Ces années romaines sont en effet marquées par des travaux édilitaires et architecturaux, aussi remarquable que la construction du Panthéon ou de son mausolée, notre château Saint-Ange, comme nous allons le voir ce soir, avant de suivre à nouveau Hadrien en Grèce et en Asie. Écoutez.
Au chapitre des contributions, constructions plutôt réalisées à Rome même durant ces années-là, on ne peut passer complètement sous silence dans la perspective qui est la nôtre, l'édification du Panthéon, ne serait-ce qu'en raison de la part qui prit sans doute encore, avec d'autres, bien sûr, l'architecte de Trajan, Apollodore de Damas, dont l'histoire Auguste mentionne le nom en rapport avec le réaménagement sous Hadrien de l'espace occupé jusque-là par la statue colossale de Néron. Plus intéressant toutefois est la notion même de Panthéon, ou Pantheon, lieu de culte pour tous les dieux, emprunt manifeste au monde grec, où l'adjectif panthéos, quoique rare, est d'une haute antiquité, puisque dans le calendrier de certaines cités apparaît un mois panthéos ou panthéon. Certes, l'édifice romain, avec sa coupole percée d'une ouverture en son sommet et tout son symbolisme astral, était puissamment original, mais rien ne prouve qu'Hadrien en ait emprunté le plan circulaire à l'architecture primitive des Étrusques, comme l'admet un peu vite peut-être Marguerite Yourcenar, selon qui les arts de la Grèce n'y auraient été qu'une simple ornementation, un luxe ajouté. Elle fait bien voir cependant que la volonté de l'empereur d'élever ainsi un temple à tous les dieux procédait d'une conception personnelle de la divinité à la fois une et multiple, en quoi il était sans doute plus redevable à la pensée grecque qu'à la vieille religion étrusque. On sait du reste qu'il fit élever un autre Panthéon à Athènes même, et c'est même dans ce sanctuaire commun à tous les dieux, entoi koinoi ton theon hieroi, qu'il fit dresser, au dire de Pausanias, livre 1-5, la liste de ses offrandes aux divinités grecques. Relevons enfin l'évocation que, dans ce même contexte, l'auteur des mémoires fait de l'inauguration du temple de Vénus et de Rome, laquelle aurait été couplée avec une cérémonie solennelle à l'intérieur même du Panthéon, alors de Rome. C'est, chose notable, l'un des très rares événements rapportés dans les mémoires pour lesquels soit fournie une datation absolue, en l'occurrence les ides de mars de l'an 852 de la fondation de la ville, ce qui correspondrait au 15 mars 129 après Jésus-Christ, quand Adrien, à vrai dire, se trouvait à nouveau en Orient. Ce fut une espèce de triomphe accompagné de courses de chars, de spectacles publics, de distribution de parfums et d'épices. Dans le cortège, ajoute le mémorialiste, figuraient les 24 éléphants qui avaient amené à pied d'œuvre ces blocs énormes. Détail emprunté à l'histoire auguste, diminuant d'autant le travail forcé des esclaves. Opération personnelle, en revanche, de l'auteur moderne des mémoires, destinée à rappeler les efforts d'Adrien pour améliorer la condition légale des esclaves, sans chercher pour autant à faire disparaître le statut servile. Je doute, fait du reste écrire Yourcenar à l'empereur, que toute la philosophie du monde parvienne jamais à supprimer l'esclavage. On en changera tout au plus le nom. Page 123. Ce qui est certain, c'est qu'Adrien avait lui-même, dans sa villa de Tibur, de très nombreux esclaves, beaucoup d'affranchis surtout, qui formaient son entourage immédiat, dans ses déplacements également, de sorte que ils étaient opérationnels, pourrait-on dire, en tout temps. Ainsi, en particulier, le personnel de la chancellerie impériale est préposé aux lettres administratives. Même une fois rentré en Italie, l'empereur devait avoir recours quotidiennement au secrétaire dit ab epistulis graecis, car les affaires du monde hellénique ne lui laissaient pas plus de répit que celles de l'Occident latin. C'est d'ailleurs à Adrien que remonte le dédoublement des bureaux des lettres. Il est frappant que l'on ait une lettre datable de la fin de l'été 125, grâce à l'indication de la 9e puissance tribunicienne et la mention du mois de septembre, avec un quantième qui est mutilé, qui soit expédié apo oikias tiburtines, depuis ma résidence de Tibur. Cette lettre aux Delphiens et aux Amphictyons fait état en effet d'une ambassade venue de Delphes pour soumettre à l'approbation du Sénat une mesure relative au concours des Pythia. Elle était porteuse, cette ambassade, d'une missive adressée à Adrien, lettre que celui-ci, à peine rentré à Rome vers la fin de l'été, dut remettre au Sénat. Et dans sa réponse aux autorités du sanctuaire pythique, il annonce déjà qu'il leur fera connaître, le moment venu, ce qui a été fait de son propre côté, en Cairo, dieges omai, par humain, a aide pepractai moin. Dès alors, par conséquent, il devait envisager un nouveau voyage en Grèce, où il venait pourtant de séjourner plusieurs mois. Si de telles lettres restent hélas l'exception, c'est que les archives de la villa Tiburtina et celles du Sénat ont péri, bien sûr. Seul donc le hasard des trouvailles archéologiques dans la patrie des destinataires de la correspondance impériale peut venir ici et là apporter un ray de lumière sur les affaires qui retinrent l'attention de l'empereur durant son triennium romain de 125 à 128. Il faut bien reconnaître que très peu d'inscriptions jusqu'ici nous ont informés sur l'activité diplomatique au sens premier du terme, soit la confection de diplômes déployés par Adrien en ces années-là. Mais on peut raisonnablement espérer de futures découvertes, y compris de fragments qui pourraient permettre d'attribuer à cette phase du règne tel document actuellement impossible à dater avec précision en raison même de sa mutilation. Pour 126, si je vois bien, on ne possède toujours que les bribes mises au jour autrefois à Athènes et à Olympie du dossier relatif aux honneurs que le koinon des Achéens votèrent à Adrien pendant et après le périple péloponnésien de 124. cet organisme souhaitait en effet lui en octroyer de nouveaux, mais l'empereur préféra les décliner, et cela sans doute pour épargner les finances la Ligue. L'année 126 continue ainsi à nous apparaître comme un espace presque vide sur le plan de la politique extra-italique, tout au moins. Mais il serait très imprudent d'en tirer la conclusion qu'Adrien s'était éloigné, si peu que ce fût, des affaires de l'Orient pour vivre caché, en mettant à son tour en pratique le fameux précepte d'Épicure, adopté peut-être par la divine Plotine, on l'a vu, ou pour filer le parfait amour avec Antinoüs. On notera du reste à ce propos qu'il n'existe pas la moindre anecdote autorisant à supposer la présence du jeune homme en Italie, que ce soit à Rome, à Tibur ou à Baïli, ce qui n'est guère favorable à la thèse selon laquelle le jeune Bithynien aurait été aux côtés de l'empereur depuis l'an 124 déjà. Aussi, l'auteur moderne des mémoires a-t-il dû faire preuve d'une bonne dose d'imagination pour faire apparaître Antinoüs en telle ou telle circonstance de la vie publique ou privée d'Adrien en Italie. Il n'est pas arbitraire, en revanche, de penser que c'est à partir de ces années-là que l'empereur eut à se soucier d'une question qui n'était certes pas nouvelle, on en parlait même passablement depuis Trajan au moins, mais qui ne devait cesser de prendre de l'ampleur, la présence dans les provinces orientales surtout de ceux que l'on avait pris l'habitude d'appeler les Christiani, ces membres d'une secte judaïque que l'on ne distinguait pas très bien encore des juifs de la diaspora. De fait, les premiers évêques de Jérusalem, jusqu'à l'insurrection et à la répression de 132, étaient tous des judéo-chrétiens encore circoncis. Le règne d'Adrien marque en effet, et même à plus d'un égard, un tournant dans l'histoire du christianisme. C'est alors qu'apparaissent pour la première fois, et tout d'abord en langue grecque seulement, semble-t-il, des écrits de type apologétique où des chrétiens ne craignent pas de sortir de l'ombre pour défendre leur foi en même temps que leur conduite, souvent décriée par l'opinion publique. L'auteur fort érudit vers 300 de notre ère de l'histoire ecclésiastique, Eusèbe, évêque de Césarée en Palestine, nous fait savoir que c'est auprès d'Aelius Adrien, successeur de Trajan, à la tête du pouvoir, hégémonia, que Quadratus remit un discours qu'il lui avait lui-même adressé. Il avait composé cette apologie « En faveur de notre religion, poursuit Eusèbe, Uper, tes, cat, emas, theos et beas. » Parce que certains hommes mauvais s'efforçaient de troubler les nôtres. Et d'ajouter encore, avant de citer un bref extrait de cette œuvre, que le livre se trouve chez un grand nombre de nos frères et aussi chez nous. Or, malgré cette précoce diffusion, le livre en question est considéré comme perdu, tandis qu'on possède encore, en diverses versions, l'apologie d'Aristide, auteur athénien, qui, selon le même Eusèbe, laissa lui aussi un ouvrage dont il avait fait hommage à Adrien, Epiphonessas Adrianoi. Selon les spécialistes, c'est peut-être dès 125 à Athènes que le premier des apologistes, donc Quadratus, remit son livre à Adrien, tandis que le second, cet Aristide, paraît bien n'avoir écrit qu'au début du règne d'Antonin, dont le nom Titus Aelius Adrianus Antoninus a pu être abrégé et ainsi confondu avec celui de son père adoptif, Adrien. C'est sans doute pourquoi Marguerite Yourcenar n'a retenu, avec raison, de ces deux pionniers de l'apologétisme chrétien que le dénommé Quadratus, en supposant, sinon une relation directe, du moins un contact avec Adrien quand celui-ci séjourna assez longuement à Athènes en 131, juste avant la guerre juive. C'est vers cette époque que Quadratus m'envoya une apologie de sa foi, écrit l'auteur des mémoires. L'entretien, s'il y en eut un, tourna cependant court. Non pas, bien sûr, qu'Adrien ait cru devoir rejeter en bloc les aspirations de la doctrine chrétienne, ses aspirations à une forme de fraternité universelle, mais parce qu'il aurait perçu chez cet homme et chez ses coreligionnaires une forme de naïveté, des faiblesses dues à une formation philosophique insuffisante, et plus gravement, un manque d'attention et de bienveillance pour la pensée de l'autre. Bref, un certain fanatisme en puissance qui rend l'empereur instinctivement méfiant, car note-t-il, toute tolérance accordée aux fanatiques leur fait croire immédiatement à de la sympathie pour leur cause. J'ai peine à imaginer que Quadratus espérait faire de moi un chrétien, page 228. Mais quelle fut l'attitude politique d'Adrien à l'égard des sectateurs du Christ? Yourcenar le laisse bien voir en prêtant à l'empereur la déclaration suivante. J'avais eu pour principe de maintenir envers cette secte la ligne de conduite strictement équitable qui avait été celle de Trajan dans ses meilleurs jours. Je venais de rappeler au gouverneur des provinces que la protection des lois s'étend à tous les citoyens et que les diffamateurs des chrétiens seraient punis s'ils portaient contre eux des accusations sans preuve. Fin de la citation. Il y a dans cette phrase d'inspiration républicaine comme une double référence. La première est bien sûr au fameux échange de lettres entre Trajan et Pline le Jeune, lorsque ce dernier, depuis la Bithynie, interroge l'empereur sur la question de savoir ce qu'il doit faire avec les chrétiens. Faut-il punir le nom même de chrétien, un nomen ipsum, ou seulement les crimes qu'implique le nom, un flagitia coherentia nomini. C'est le chapitre, lettre 96 du livre 10. Le rescrit du prince qui, en l'absence de règles précises, prônait la souplesse, le renoncement à la poursuite d'office et le pardon accordé à ceux qui abjuraient, faisait jurisprudence d'une certaine manière et Adrien ne pouvait qu'adopter le refus de principe de son prédécesseur d'avoir recours à la délation, procédé d'un détestable exemple, écrivait Trajan, et qui n'est plus de notre temps, pessimi exempli, nec saeculi nostri. La seconde référence est à un rescrit d'Adrien lui-même, qui a été une pièce maîtresse dans le combat des chrétiens pour obtenir la reconnaissance de leur droit à une existence légale au sein de l'Empire. On trouve en effet ce document cité pour la première fois sous Antonin, déjà par Justin, dans son apologie pour les chrétiens. D'après Eusèbe, un siècle et demi plus tard, Justin avait tenu à le reproduire, cet rescrit, dans sa version originale, c'est-à-dire en latin, tandis que l'auteur de l'histoire ecclésiastique le traduisait en grec. Et en fin de compte, c'est seulement en grec qu'il nous a été transmis, mis à part une rétroversion latine qui n'a pas de valeur en elle-même. La lettre d'Adrien est adressée au gouverneur de la province d'Asie, Gaius Minucius Fundanus, un lettré, ami de Plutarque et de Pline, en réponse à une question que lui posait son prédécesseur, Serenius Gratianus. Si l'authenticité d'un tel texte a pu être mise en doute, c'est qu'il paraissait faire la part trop belle aux chrétiens, en les mettant définitivement à l'abri des calomnies anonymes et collectives, alors que l'histoire prouve qu'il n'en fut rien pendant plus d'un siècle encore. Aujourd'hui, cependant, par deux voies tout à fait distinctes mais convergentes, le caractère authentique du rescrit d'Adrien paraît s'être imposé au jugement de tous les critiques. C'est que, d'un côté, la succession des deux magistrats romains peut être datée précisément de l'an 122, moyennant une très légère correction dans le nom du premier qui s'appelait en réalité Silvanus Gratianus et non pas Serenius Gratianus, alors que les diverses versions de la chronique d'Eusèbe se trompaient, mais de peu en fin de compte, en donnant l'année 127. Or, si l'on avait affaire à un document fabriqué pour les besoins de la cause, le faussaire n'aurait pas pris la peine d'indiquer une situation administrative aussi compliquée et aussi spécifique, pour reprendre les termes d'une étude de Frédéric Hurlet dans un livre de 2006 sur le proconsul et le prince d'Auguste à Dioclétien. D'autre part, comme l'ont vu plusieurs spécialistes de l'histoire de l'Église, le rescrit d'Adrien n'avait pas la portée générale qu'on a pu lui prêter. L'empereur ne reconnaissait pas l'existence légale des chrétiens en tant que tels, il s'efforçait seulement de les mettre au bénéfice des règles de procédure accusatoire lorsqu'ils étaient traînés devant les tribunaux du proconsul. C'est la conclusion à laquelle aboutit aussi l'historien allemand Peter Kuhlmann dans un livre tout récent sur la politique religieuse de l'empereur Adrien, sous le titre « Religion und Erinnerung » de 2012. Et Marguerite Yourcenar ne disait finalement pas autre chose, en s'inspirant peut-être in extremis de l'ouvrage classique de Bertrand d'Orgeval, l'empereur Adrien, l'œuvre législative et administrative. Il convient donc de tenir le rescrit sur les chrétiens comme un acte parfaitement authentique qui aurait été digne de figurer dans le recueil des constitutions impériales de l'Américain James Oliver. Deux autres documents correspondant à la période où l'empereur se trouvait dans sa capitale ou dans sa résidence privée du Latium nous ramènent vers la province d'Asie, qu'Adrien n'allait pas tarder d'ailleurs à visiter à nouveau. Le premier de ces textes est au nombre des inscriptions les plus anciennement connues de toute l'Anatolie, puisque ce sont des voyageurs du début du XIXe siècle qui la copièrent sur les parois encore debout d'un temple bien important situé au cœur de la Phrygie, dans cette ville d'Aizanoï, dont nous avions entretenu ici même, voici 5 ans déjà, Michael Wörlet, en nous faisant connaître beaucoup d'inscriptions se rapportant à d'autres phases de l'histoire de cette ville indigène progressivement hellénisée. Édité en de nombreux recueils de références, ce dossier a fait l'objet en 1971 de la part de l'épigraphiste et spécialiste du droit Umberto Laffi d'une réédition qui a pris en compte un accroissement survenu dans l'intervalle grâce à la publication d'une inscription architecturalement indépendante, mais thématiquement liée. Sur le temple, le dossier se compose de 4 pièces relatives aux redevances dues par les occupants de terres qui étaient, depuis l'époque hellénistique, la propriété du temple, ou mieux, du sanctuaire de Zeus. L'ensemble primitif a été gravé en une seule fois sur l'assise supérieure du mur d'Ante, de ce temple, sous le proconsulat de Titus Avidius Quietus, qui, en 125-126, fut le second successeur du gouverneur que nous avons vu à l'œuvre il y a un instant dans l'affaire des chrétiens. Mais la contestation autour de cette hiera cora, de cette terre sacrée, comme il y en avait à Delphes et ailleurs, durait depuis plusieurs années déjà, et elle avait sollicité l'attention des autorités romaines dès le début du principat d'Adrien, sinon plutôt encore. Et en 129, peut-être au moment où il arrivait en Asie, Adrien adressait aux gens d'Aizanoï une lettre qu'a fait connaître une inscription bilingue publiée juste avant la dernière guerre mondiale, dans laquelle il annonçait avoir fait restituer, manu militari, selon toute apparence, des terres octroyées à ce sanctuaire de Zeus, Genetor, par les rois Attal et Prusias. Un des intérêts multiples, évidemment, de ce dossier, c'est donc de montrer comment fonctionnait l'administration de la province à plusieurs niveaux. Le proconsul Le proconsul ne manque pas d'interroger l'empereur, même si ce dernier se trouve alors bien loin en Italie, dès qu'une difficulté sérieuse se présente. On n'a certes pas conservé le premier rescrit du prince là-dessus, mais son existence découle assez clairement de la lettre que le proconsul écrit aux habitants d'Aizanoï et qui constitue la première pièce du dossier gravé sur le temple. Car, en guise de préambule, le magistrat fait savoir que la contestation a trouvé une issue grâce à l'intervention providentielle du grand empereur, te pronoiai tu megistu autocratoros, que le proconsul avait consulté par écrit pour lui demander ce qu'il fallait faire, et romaine te oticre poien, ligne 4-5. Et c'est à lui qu'il tient à attribuer publiquement tout le mérite d'avoir su trouver la solution à cette épineuse question, en tempérant par des sentiments d'humanité la rigueur du droit et en mettant tout son soin à prononcer les arbitrages meixas to philanthropo todicaion acolutos tei peritas chryseis epimeleiai. Mais c'est le proconsul qui avait instruit l'affaire, bien sûr, et qui, sur certains points, avait fait plus qu'esquisser la solution, comme cela ressort du second rescrit d'Adrien envoyé en copie aux Aizanites. On conserve en effet, à côté de la lettre en grec, cette réponse de l'empereur au proconsul, rédigée bien entendu en latin sous la rubrique « Exemplar epistolae caesaris scriptae ad quietum ». Or, Adrien y approuvait les mesures que son proconsul se proposait de prendre, et dans le détail desquelles il n'y a pas lieu d'entrer ici, optimum est, sicut tu quoque, existimas. Il est parfaitement approprié, comme tu le juges toi-même, d'opter pour telle chose. Dans l'étude déjà citée à propos des deux rescrits sur les chrétiens, Frédéric Hurlet souligne la courtoisie de ces échanges épistolaires. Le primus inter pares, qu'est l'empereur, n'impose pas ses vues. Il se range volontiers à l'avis du consulaire qui est comme lui le gouverneur de cette grande province sénatoriale. Celui-ci, en revanche, quand ses propres décisions ont reçu l'approbation du prince, peut les imposer avec d'autant plus de force, y compris au procurateur de la province, qui pourtant relève directement de l'empereur. C'est ce que montrent bien les deux autres documents gravés comme en annexe, la lettre de Quietus au procurateur Hesperus et la réponse de ce dernier. Le proconsul, on peut dire que la courtoisie n'est certes pas absente non plus de cette correspondance. Le proconsul s'adresse à son Hesperus Carissimus, mais le procurateur, c'est bien lui qui a affaire à son maître, Dominus. Ainsi fonctionne la machinerie bien huilée de l'administration provinciale romaine à l'époque antonine. Avant de quitter Aizanoï, il faut dire un mot de la date de l'édifice sur lequel ce beau dossier épigraphique a été ainsi gravé, bien en vue, relativement en vue, sur la face sud conservée de l'antichambre du pronaos du temple. La construction de ce temple, un des plus importants de l'Asie mineure gréco-romaine, est-elle en rapport avec le succès que les Aizanites avaient remporté grâce à l'intervention du proconsul et de l'empereur lui-même dans le conflit qui les opposait aux locataires de leur dieu? Autrement dit, peut-on admettre comme une hypothèse raisonnable que l'édifice était une sorte d'ex-voto monumental pour rendre grâce à Adrien, si souvent identifié à Zeus par ailleurs, en même temps qu'à la divinité locale? Il était jusqu'il y a peu l'opinio communis, mais celle-ci a été renversée au début de ce troisième millénaire par deux études simultanées, convergentes, l'une architecturale et stylistique, l'autre épigraphique. Je me borne ici à rappeler la façon bien originale dont les épigraphistes Posamentir et Vorlet ont réussi à déchiffrer l'inscription dédicatoire qui s'étalait en grand caractère de bronze doré sur la face du temple. Et cela, en dépit du fait qu'il ne reste rien des lettres elles-mêmes, mais seulement les traces d'implantation sur le marbre de ces éléments métalliques surajoutés. En effet, l'étude minutieuse de ces vestiges sur les blocs en grande partie conservés de l'entablement ionique leur a permis non seulement de reconstituer une dédicace complète de l'empereur Domitien, mais de la dater avec une très faible marge d'incertitude entre 93 et 95, quand Adrien n'était encore qu'un jeune homme de 20 ans. Mieux, ils ont réussi à déterminer que les lettres de bronze dorées correspondant au nom même de Domitien avaient été arrachées selon une technique, si l'on peut dire, différente de celle qui fut utilisée pour les autres lettres. Il faut donc en conclure qu'à Eizanoï également, par suite de la damnatio memoriae prononcée en 96 contre cet empereur, l'inscription dédicatoire fut délibérément mutilée, comme il y en a bien des exemples ailleurs. Adrien n'est donc pour rien dans l'édification de ce temple. Si les inscriptions qui le mentionnent ont trouvé place sur l'édifice, c'est que celui-ci était encore alors fort récent, avec de belles surfaces laissées libres pour la gravure de documents importants. Quoique connu depuis un peu moins longtemps que celui d'Eizanoï, le second dossier annoncé fait également partie de ce que l'on pourrait désigner comme l'anthologie documentaire du Principat d'Adrien. Mais ce n'est peut-être pas une raison suffisante pour n'en point parler, d'autant moins que ces trois lettres d'Adrien aux habitants de la ville de Stratonicée concernent une cité que l'empereur avait lui-même refondée sous le nom d'Adrianopolis lors de son voyage à travers les forêts de la Mysie en 124. Un des intérêts les plus évidents pour l'histoire générale du règne de ce dossier bien conservé est que, comme l'avait vu déjà le premier éditeur, Georges Radet, en 1887, et qu'il se trouve non seulement fort précisément daté des ides de février ou des calendes de mars, pour une autre lettre, dans la 11e puissance tribunicienne, par conséquent, de la fin de l'hiver 127, mais que le lieu de l'expédition des lettres était donné aussi et que c'était Rome, Apo Romes. Donc, à ce moment-là encore, Adrien était dans sa capitale. Marguerite Yourcenar ne paraît pas avoir spécialement tiré parti de ces données, pas plus d'ailleurs qu'elle n'a cru devoir utiliser l'inscription d'Eizanoï, quand bien même elle ne pouvait ignorer l'existence de ces documents. Peut-être aurait-elle été intéressée d'apprendre qu'à Paris, en 1948, deux ans avant la publication de « Mémoire d'Adrien », les épigraphistes Jeanne et Louis Robert avaient donné une édition bien améliorée de cette lettre, après avoir révisé la pierre avec soin en Turquie au musée de Manisa l'année précédente et en avoir fait de bons estampages conservés, donc consultables au besoin, à l'Institut de France. Dans la plus récente des trois lettres, l'empereur accède à la demande de cette cité nouvellement fondée, Arti Gainomenei Polei, en lui donnant d'une part le droit de prélever des taxes dans le territoire attribué à la ville, ta des télé, ta en ectes cora, d'autre part, chose plus insolite, la maison oikia d'un certain Tiberius Claudius Socrates, en assortissant ce don d'une condition que le propriétaire de la maison entreprennent de la restaurer ou alors qu'on la vende à l'un ou l'autre des habitants afin qu'elle ne tombe pas en décrépitude, katarifteie, sous l'effet du temps et faute d'entretien. Cette préoccupation de l'empereur de Rome pour une bâtisse menaçant ruine dans une assez obscure cité de la Mysie semble de prime abord déconcertante. Mais on pourrait peut-être en rendre compte, comme l'a suggéré récemment le professeur Evan Bowie, par le fait que cette maison avait abrité Adrien lui-même lors de son voyage. On ne pouvait donc laisser sans soin un édifice qui était comme un Néron, puisqu'elle était liée au souvenir de l'Auguste Ctistès. Enfin, Il convient de rappeler que ces lettres adressées aux Adrianopolitae, Stratonicaeis, a joué un rôle décisif dans la localisation, de la cité appelée Stratonicée du Caïque ou de Mysie, pour la distinguer de celle bien mieux connue de Stratonicée de Carie, avec laquelle elle fut longtemps confondue. Louis Robert l'avait montré dès 1938 dans ses villes d'Asie mineure, mais à cette époque, il ne jugeait pas possible que cette petite ville eût été le théâtre d'un événement majeur dans l'histoire de l'Anatolie, la mort d'Aristonikos, du dernier des prétendants au trône des Attalides face aux Romains en l'an 129 avant Jésus-Christ. Cet épisode de la résistance grecque à la conquête romaine était en effet placé dans la ville homonyme de Carie. Convaincu bientôt de son erreur par divers travaux de savants anglo-saxons après la guerre, le grand épigraphiste tint à retourner avec sa femme en 1960 à Stratonicée de Mysie Adrianopolis pour en photographier le site alors désert. « En hommage, écrit-il, au courage malheureux du roi Eumène III, c'est-à-dire Aristonikos, et par remords d'avoir méconnu le rôle de Stratonicée du Caïque dans son combat, et aussi pour toucher de mes pieds la force abrupte de cette position. » Ainsi parlait Louis Robert, le savant et l'homme. Pour Adrien, l'année 128 allait marquer le commencement d'un long, très long périple oriental qui inaugure une tournée d'inspection toute militaire dans la province de Numidie. Ce séjour en terre d'Afrique ne peut certes pas, à proprement parler, être considéré comme une simple étape dans le voyage vers l'Asie, puisque avant d'entamer celui-ci, l'empereur repassa brièvement par Rome pour se réembarquer à nouveau. Denique cum post Africam Romam redicet statim profectus ad orientem per Athenas iter fecit, écrit l'auteur de l'histoire Auguste, pour une fois un peu précis dans l'évocation d'un déplacement d'Adrien. Si je crois néanmoins devoir dire un mot ici de cette visite au camp de Lambèse, lieu de stationnement depuis alors peu d'années de la 3e Légion Auguste, c'est pour rappeler l'existence d'une inscription latine qui reste l'un des documents les plus significatifs que l'on ait sur le principat d'Adrien, car cette pierre à peu près unique en son genre reproduit, on le sait, le discours que l'empereur tint le 1er juillet 128 après l'inspection des troupes à l'exercice « Exercitationibus inspectis ad locus est is quae infra scriptae sunt ». Il importe de signaler que ce long texte a fait l'objet naguère d'un ouvrage collectif fort instructif sous la direction du spécialiste de l'armée romaine impériale qu'est Jan Le Boeck. Cette étude jette d'ailleurs une lumière intéressante sur l'ensemble du règne, sur la personnalité d'Adrien, dans la mesure où s'y trouve posée la question de savoir quelles étaient, en fin de compte, les motivations de l'empereur dans ses pérégrinations incessantes à travers l'Empire. Des raisons diverses ont été avancées par les historiens, parfois dès l'Antiquité. Ainsi, précisément, dans nos sources historiographiques, on a évoqué la nécessité d'inspecter les légions stationnées aux frontières, surtout dans les régions menacées, comme la Bretagne, la Germanie, la Pannonie. Plus subtilement, on a tenté de mettre en avant des préoccupations économique, le désir de contrôler et de redresser les finances des cités, d'assurer la production et l'écoulement des denrées alimentaires de base, ou même par des visées plus spécifiquement politiques, de caractère d'ailleurs négatif, puisqu'Adrien aurait cherché autant que possible à échapper à l'emprise du Sénat, raison qui semble finalement assez peu plausible dans la mesure où il s'efforça, Adrien, après les quelques couacs du début, d'honorer les sénateurs et qu'il assista très régulièrement aux séances du Sénat, note l'histoire Auguste, durant ses séjours à Rome ou près de Rome. Enfin, il y aurait la curiosité esthétique, littéraire, voire simplement touristique. Il nous semble impossible de privilégier totalement l'une ou l'autre de ces explications, car si le souci du gestionnaire, du législateur, du généralissime est bien partout présent et sensible, l'intérêt du voyageur pour les manifestations dites, faute de mieux, culturelles, essentiellement les fêtes religieuses et les concours athlétiques ou musicaux, mais pas les fêtes, les festivals de grâce, cet intérêt, disais-je, se trouve aussi de mieux en mieux attesté, comme on en verra encore plus d'un exemple jusqu'au terme de ce cours. Des premières étapes en Grèce même, du second voyage en Orient, on évoquera que peu de choses aujourd'hui. Venant d'Italie par voie de mer, Adrien dut faire escale au sud du Péloponnèse, entre le cap Ténare et le cap Malé, au fond du golfe de Gition, et remonter de là vers Lacédémone. On se souvient en effet que l'épigraphie laconienne oblige à admettre un second voyage, un voyage de Sparte, après celui de l'hiver 124-125 dans le cadre de la grande tournée péloponnésienne. Pour ce qui est d'Athènes, je me réserve de parler plus tard, en même temps que de la fondation du Panhellénion en 131, de l'achèvement et de l'inauguration de l'Olympiéion. Mais il est bon de prendre conscience dès maintenant, car cette innovation eut de quasi immédiates répercussions dans toute la partie orientale de l'Empire, comme l'a souligné notamment le romaniste Marcel Leglet en un riche article de 1976, que c'est lors de ce passage à Athènes en l'an 128 qu'Adrien reçut l'épiclèse Olympios, qui l'identifiait au dieu d'Olympie en le mettant au-dessus de tous. Les titres divins que la Grèce m'octroya par la suite ne firent que proclamer ce que j'avais de longue date constaté par moi-même, écrit sans excessive modestie, mais sans prétention non plus à une authentique divinisation, l'auteur des mémoires. Toutes les inscriptions adrianiques donnant à lire cette épiclèse, comme entre beaucoup d'autres, ce célèbre document d'Éphèse honorant Adrien lors de son séjour en Asie en 129, doivent donc nécessairement dater au plus tôt de 128-129. À l'automne de cette année-là, Adrien devait accomplir le deuxième acte, 4 ans après le premier, de son initiation au grand mystère d'Éleusis, en accédant cette fois à l'époptie, à la vision complète de l'indicible. Il faut revenir un instant sur le témoignage de l'histoire auguste relatif à l'initiation de 124, car ce passage fait sur un point difficulté. Selon le texte adopté dans l'édition Budé par notre confrère Jean-Pierre Calu, Adrien aurait suivi, en se faisant ainsi initier, l'exemple d'Hercule et de Philopappus, exemplo Herculis Philopappicue. Ce personnage étant le fastueux bienfaiteur dont le nom est connu de tous les visiteurs d'Athènes à cause de son monument bien conservé sur la colline des Muses en face de l'Acropole. Mais la lecture philopapie n'est en réalité qu'une conjecture, plus astucieuse peut-être que vraiment convaincante, due à l'épigraphiste James Oliver en 1950, pour contourner la problématique leçon des manuscrits, à savoir Philippi. De fait, on ne saurait guère accepter, même si Anthony Burley, dans le sillage de Paul Grindor, notamment, croit pouvoir le faire, qu'aux yeux d'Adrien, le roi Philippe, qu'il s'agisse du second ou du cinquième souverain macédonien de ce nom, ait été un exemple de piété à l'égard des déesses d'Éleusis. Rien ne parle en ce sens. L'association d'Hercule et de Philopappos n'en paraît pas moins singulièrement boiteuse à la réflexion. Un héros mythique, d'un côté, et de l'autre, un contemporain, ou quasi-contemporain. Une conjecture différente, ignorée ou délibérément passée sous silence par l'éditeur, me semble infiniment meilleure, même si elle suppose une erreur un peu plus grave chez le copiste. C'est Asculapique, que proposait Paul Fougard, très bon connaisseur des rites éleusiniens dès 1893. Car on aurait là mis côte à côte deux figures de même catégorie, comme c'est le cas exactement dans l'épigramme d'Éleusis, pour la hiérophantis anonyme, qui, on s'en souvient peut-être, pouvait se glorifier d'avoir été l'initiatrice d'Adrien au mystère, à défaut d'avoir pu l'être pour les Dioscures, comme pour le héros des 12 travaux, Héraclès, bien sûr, celui qui trouva les remèdes aptes à guérir les maladies, au Ramenos Pausinosus Akesais, Hercule et Esculape, donc, Héraclès et Asclépios, divinité bienfaisante pour tout le genre humain, voilà les vrais modèles dont pouvait aimer à se réclamer l'empereur philanthrope. Pour le déplacement d'Adrien au printemps 129 depuis Éleusis, justement, en direction de l'Asie mineure, on possède un témoignage épigraphique d'une très grande valeur émanant de l'intéressé lui-même. C'est la fameuse lettre adressé par l'empereur en l'an 129 aux autorités d'Éphèse, où il recommande à la bienveillance des Éphésiens un certain Lucius Erastus, leur concitoyen, en faisant état des services que ce personnage, habitué à escorter les autorités provinciales, tu ethnus, tous hegemonas, aei diacomizain, lui a rendu personnellement à lui en l'accompagnant à deux reprises, émoi des 10 sunéploïsen, dans sa traversée naguère d'Éphèse à Rhodes, c'est-à-dire lors de la première étape du voyage de 124 en direction d'Athènes, puis tout récemment d'Éleusis à Éphèse, justement. Le souhait, pour tout dire l'ordre de l'empereur, étant qu'un homme si dévoué pût accéder au rang de bouleute ou membre du conseil éphésien, à charge pour Adrien de s'acquitter des frais et autres munera découlant de cette légitime promotion sociale. Sorti ainsi de l'ombre à la faveur des premières fouilles britanniques sur le site d'Éphèse, un tel personnage ne pouvait manquer de faire une brillante carrière dans l'historiographie moderne du principat d'Adrien. Erastos, l'aimable Nauclère, est devenu assez naturellement le pilote attitré de l'empereur à travers ses balades égéennes. Marguerite Yourcenar ne pouvait bien entendu que renchérir là-dessus. La barque que le marchand Erastos d'Éphèse me prêtait pour naviguer dans l'archipel, écrit l'auteur des mémoires, mouilla dans la baie de Phaleère, etc. Et dans la note in fine, le caractère historique du personnage est dûment certifié. Mais la publication passait d'abord inaperçue d'une lettre strictement parallèle en faveur d'un second capitaine éphésien du nom, lui, de Philocurios, devait amener bientôt deux bons connaisseurs de l'Asie mineure à s'interroger sur le rôle véritable du dénommé Erastos. En 1994, en effet, Thomas Drubin et F. Richard faisaient justice de la fable colportée depuis plus d'un siècle en montrant qu'il était exclu d'imaginer Adrien naviguant sur d'autres bâtiments qu'un lourd vaisseau de guerre. Et l'affranchi Erastos et son collègue Philocurios, sans oublier les autres gens de mer ayant rendu les mêmes services, n'étaient que des capitaines, certes pleins de zèle, mais pas tout à fait désintéressés, des très nombreux bateaux de commerce qui escortaient la flotte romaine pour assurer la subsistance des passagers, le cas échéant, des gouverneurs ou de l'empereur en personne. Il faut donc prendre quelques distances avec la vision un peu trop romantique de Yourcenar, d'un Adrien naviguant d'île en île, au gré de son humeur ou des caprices d'Antinous, dont la présence aux côtés de l'empereur est en revanche désormais plus que probable, la rencontre fatidique ayant eu lieu au plus tard en 128-129 à Athènes ou très peu après en Asie. Les déplacements du cortège impérial sur la terre ferme, en l'occurrence pendant le long voyage qui allait s'amorcer d'Éphèse en direction d'Antioche à travers toute la péninsule micrasiatique, n'était certainement pas moins réglé, ni soumis à moins de contraintes administratives que les traversées maritimes. Sont évoqués les incidents de route toujours possibles. Une inscription remarquable, publiée en 2009 dans les actes d'un colloque de Munich, vient éclairer certains aspects de la circulation des personnes dans la province d'Asie. Comme l'ont bien montré les deux éditeurs, Hauken et Mallet, il s'agit d'un édit, diatagma, que l'empereur a promulgué au terme de son voyage de 129 à travers bien des villes et des villages, Poleis kai Komai, de la province d'Asie. La pierre n'a certes pas été trouvée in situ, mais on ne peut douter qu'elle provient d'une localité de Lyonie, pas très loin d'Éphèse donc. Ce qui surprend de prime abord, c'est qu'un tel acte, inspiré par les doléances que le prince avait pu recueillir directement durant son séjour dans la province, « kata ten epidemian ei epidemesa to etnei imon », elle laissait si peu de traces jusqu'ici, alors que les administrés avaient tout intérêt, semble-t-il, à afficher cela pour défendre leurs droits contre les abus commis par certains voyageurs. C'est du reste ce à quoi les engageait l'empereur lui-même dans la sanctio finale, que cela soit rendu public, protetto. Mais les villageois hésitaient peut-être à faire la dépense d'une stèle. D'autre part, seuls se sentaient concernés les habitants des localités traversées par une route importante qu'empruntaient des troupes en déplacement. De fait, ce sont les exactions des soldats que l'empereur voulait avant tout sanctionner. Cela montre bien que même une province réputée inermiche, sans armée, n'hébergeant donc pas en permanence d'importantes forces militaires, comme était l'Asie, pouvait redouter le passage incessant de convois et de troupes auxiliaires, sinon de légions stationnées, engagées ailleurs. De fait, plus d'une telle via militaris, pour reprendre le qualificatif que Cicéron appliquait à la célèbre Via Egnatia de Macédoine, devait exister à travers l'Asie mineure, où la circulation sur ces routes pouvait n'être pas sans danger, sans profit non plus, assurément, pour les populations riveraines. C'est ce qu'a mis en évidence Cédric Brella dans son livre sur la sécurité publique en Asie mineure, sous le Principa. À certains moments, au moins du règne d'Adrien, peut-être en relation avec la guerre juive, des détachements de légions vexillationes furent ainsi stationnés en Phrygie, à Euménéa, et placés sous le commandement du proconsul d'Asie. Or, c'est précisément, je termine, au titre de proconsul Antupatos, et en se substituant temporairement, selon la règle, au gouverneur en place, qu'Adrien promulgue son édit pour remédier à la situation qu'entraînait le long des grandes voies de pénétration le passage des troupes. Car il a constaté que les soldats outrepassaient leurs droits et que les habitants étaient contraints de tolérer des exigences contraires au bon droit, justement. Il tient notamment à rappeler qu'en principe, et mis à part les détenteurs d'un diplôme dûment constitué, personne ne saurait prétendre se faire remettre un véhicule, okema. Si l'on en veut un, ou si l'on veut un guide au négoce, de peur de s'égarer, il faut payer au prix du marché. D'ailleurs, notre empereur, non sans une forme d'humour, pas besoin de guide, puisqu'il s'agit de suivre la route, un point, c'est tout. La nécessité d'être guidé ne pourrait se justifier qu'en cas de forte chute de neige. Kionos, pote, megales, epipesuses, clause remarquable, où on est tenté de déceler un souvenir personnel de telles intempéries survenant sur les hauts plateaux de l'Anatolie. L'édit précise encore que les soldats voyageant à titre privé, cat et autus, n'ont aucun droit à être nourris ni logés gratuitement, proika. Mais l'empereur doit bien relever aussi que d'autres catégories de voyageurs bénéficient réglementairement d'un statut privilégié. Et c'est peut-être là que réside finalement l'intérêt principal du document. Outre les soldats en service, Hupo Semeion, sous les enseignes, ce sont ceux qui transportent l'argent de l'Empire, ta cremata tesarches, comizontes, et qui conduisent des prisonniers ou des bêtes sauvages, desmotas de agontes et teria, on appréciera la conjonctura. Les agents de ce trafic d'intérêt général, si l'on peut dire, ont droit à un logement à des prix modérés et pour leur nourriture. On comprend qu'avec des exceptions de ce genre, il n'ait pas été toujours facile pour les habitants des bourgs de faire respecter leurs propres droits. Peut-être valait-il mieux, certains jours, quitter tout simplement les abords de la grande route, au risque cependant d'être pourchassé par des troupes de soldats plus ou moins affamés qui, avec ou sans guide, se dispersaient dans la nature pour réquisitionner bêtes et blé, surtout par temps de neige.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec Denis Knopfler, titulaire de la chaire d'épigraphie et histoire des cités grecques. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation Anne Sécheret. Présentation Christine Goémet. Rendez-vous demain pour la suite du cours de Denis Knopfler qui nous parle de ce que nous savons aujourd'hui de l'empereur Hadrien. Belle journée à tous, à l'écoute de France Culture. Mm-hmm.